Totémique ce matin, c'est une échappée avec Benoît Delépine, scénariste, auteur, réalisateur et chanteur. Mais cette dernière activité est une exclusivité mondiale pour Totémique.
Sur ma meuble, je suis bien. Je suis bien et je chante. Sur ma meuble, je suis bien. Et ces cornes de bagnole sont folles de rage. Tibili papa. Tibili papa. Ces cornes de bagnole sont folles de rage.
L'important, c'est de prendre son temps, tout son temps. C'est l'une des répliques du premier long métrage que Benoît Delépine a réalisé en solo à l'âge de 67 ans. Ces 20 dernières années, il a co-réalisé, en duo avec Gustave Kervern, des longs métrages qui racontaient leur goût pour le road movie. Le premier était en fauteuil roulant, celui-ci est à pied, avec une valise à roulettes. Il s'intitule « Animal Totem ». L'histoire d'un homme qui traverse champs, forêts, lotissements depuis Beauvais, sous l'œil de chiens, rapaces, mulots ou poissons. Un conte écologique, parfois gore, en cinémascope, et qu'il a tourné dans la Picardie de son enfance. Je n'ai pas pu retrouver Benoît Delépine en Charente, là où il vit, alors il m'a donné rendez-vous à Paris, en plein air et dans un endroit calme.
Totémique, Rebecca Manzoni, sur France Inter.
Donne rendez-vous devant un cimetière, hein, quand même, c'est singulier, on va dire.
Je pense que c'est la première fois en, je sais pas, 20 ans d'interview qu'on me donne rendez-vous devant un cimetière.
Ben voilà, mais en fait, c'est assez chouette les cimetières, parce que c'est ce qui se rapproche le plus de la nature, finalement. C'est comme je pouvais pas te donner rendez-vous dans un lieu urbain, puisque mon film parle de nature, et bien voilà.
Alors on y va.
Et là, on entend les corbeaux, là, ça y est. C'est chouette, les corbeaux. Là, pour mon film Animal Totem, en fait, à un moment, je me suis posé la question, est-ce que je pourrais pas faire l'ensemble du film vu par les animaux? Mais par contre, effectivement, dès qu'on arrive en ville, les animaux se font de plus en plus rares. Donc, à part quelques corbeaux, comme ici, qui nous regardent marcher, micro à la main, voilà. Salut à vous!
Ah, vous êtes super fort, hein. De les avoir fait venir exprès.
Exprès, hein, c'est fou. Hein. On arrive là, on y arrive.
La dizaine de films que vous avez tournés avec Gustave Kervern, finalement, aucun n'a été tourné à Paris.
Alors, effectivement, c'est ça qui est un peu fou, c'est que on en a tourné qu'un seul à Paris, et encore, c'était pour le Salon de l'Agriculture. C'est-à-dire un endroit où, dans l'année, il y a le plus de provinciales réunies, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a en fait pas du tout un cinéma parisien, mais on a fait quasiment un vrai tour de France, et à l'occasion de ce film, et à l'occasion de tous les autres, en fait. Ça, c'est bien.
Qu'est-ce que ça change ?
Par exemple, nous, on avait vu vraiment arriver l'histoire des Gilets jaunes, quoi, parce que quand des gens, tout d'un coup, se mettent à un crédit sur le dos pour prendre une petite maison dans un lotissement à 15 km, voire 30 km de son travail, quand tous les matins, on part avec sa petite voiture, on revient le soir après le travail, si, dès qu'on commence à trop augmenter le prix de l'essence, ça prend des proportions dingues. C'est-à-dire que, en théorie d'écolo que je suis, il faudrait que l'essence soit encore beaucoup plus chère pour que on arrête de rouler. Mais sauf qu'il y a un moment, la réalité prend le dessus. C'est-à-dire que quand on doit faire au moins 30 km par jour avec sa voiture, là, ça change la donne, quoi. À Paris, effectivement, il y a les transports en commun qui sont là. On n'a pas les mêmes problématiques du tout, quoi. Mais ce n'est pas une critique, c'est comme ça. Mais en tout cas, il y a des choses dont on peut prendre conscience quand on habite toujours en province, quoi.
Et filmer d'autres décors dont...
Oui, voilà. Par exemple, dans les films qu'on a faits, ce sont souvent mes lieux de prédilection de province, c'est-à-dire que ça commence en Picardie, mais on traverse toute la Belgique, on montre tous nos amis belges, etc., avant d'arriver en Finlande, chez Coris Maki, qu'on ne connaissait pas, lui, par contre. Mais le deuxième, tout a été aussi tourné dans le Nord, où j'ai vécu beaucoup aussi. Ensuite, Mahmout, etc., c'était plutôt en Charente, où je vis maintenant depuis 30 ans. Et c'est tout est comme ça. Et là, dans le dernier film, c'est Animal Totem, ça se passe en Picardie, qui est ma région natale, où, avec mon papa qui était agriculteur là-bas, quoi. Donc c'est une occasion de montrer plein de choses et de lieux auxquels je suis très attaché, quoi. Par exemple, cette plaine picarde que je montre pendant tout le film, c'est mes souvenirs de gamin, quand j'étais petit et que j'allais ramener son goûter à mon papa sur sa moissonneuse batteuse. Et bah, c'est pour moi, c'est pour ça. Enfin, c'est pour montrer un pan de ma vie, fictionné peut-être, mais en tout cas, le souvenir, il est réel, quoi. Quand il y a les ballots de paille circulaires qui jalonnent la campagne, je sais pas pourquoi, mais moi, ça me fait penser aux statues de l'île de Pâques. Enfin, s'il y a quelque chose d'un peu mythique là-dedans. Il faut le vivre pour bien le montrer, quoi.
On va s'asseoir sur un banc, quand même, 2 secondes, puisqu'on a le droit. Sur une tombe, peut-être là, pas, mais... On a qu'à se mettre là.
Ça va ?
Oui, merci, ça va.
Qu'est-ce que vous faites au milieu de la route ? C'est dangereux.
Extrait d'Animal Totem de Benoît Delépine. Un automobiliste vient de s'arrêter à hauteur d'un piéton menotté à sa valise à roulettes qu'il tire au milieu de la chaussée. Il s'appelle Darius et c'est un justicier. Darius pourrait être l'enfant de James Bond et de Monsieur Hulot et de Confucius. Un homme investi d'une grande mission, s'engager dans un road trip pédestre pour rendre justice à la nature, voire la venger. Reprenons.
Qu'est-ce que vous faites au milieu de la route ? C'est dangereux.
La route ? À votre avis, monsieur, lequel de nous deux est sur la voie du grand véhicule ? Valise à roulettes ou voiture de l'espace ?
Vous êtes bien gentil, mais j'ai vraiment pas le temps de discuter, là.
Ah, vous n'avez pas le temps. Mais vous m'avez répondu. Allez, filez. Vous allez être en retard.
Vous, au-delà d'être fils d'agriculteur et d'avoir envie de filmer ces paysages, la menace que peut constituer justement l'utilisation de pesticides, vous l'avez vu très concrètement ?
Bien sûr. Alors, l'élément déclencheur, c'est qu'il y a une usine de chimie, enfin de fabrique de macadam, qui a menacé de s'installer à une dizaine de kilomètres de chez moi, mais vraiment en bord d'une zone Natura 2000, en bord du lit de la Charente, en fait, du fleuve Charente. Et c'était hallucinant, puisque tous les vents dominants auraient ramené tous ces polluants éternels, et chez nous, bien sûr, mais aussi chez des agriculteurs biologiques, sur des écoles, etc., etc. Donc, il y a eu un collectif qui s'est monté, on a fait des manifs, etc. Mais moi, je me disais, ils vont la faire, cette usine, il y avait eu toutes les autorisations administratives, c'était un peu foutu, on était face à un rouleau compresseur. Et donc, je me suis dit, au moins, je vais me venger symboliquement, grâce à mon film. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à l'écrire, et puis avec une vraie volonté d'arriver au bout, quoi. Et puis, heureusement, enfin je sais pas, le bon sens l'a emporté, les décideurs ont fini par reculer, et l'usine ne s'est pas faite. Donc ça c'était chouette, ça vaut le coup, hein, de toute façon, les combats écologiques.
De toute façon, ce motif de la lutte de David contre Goliath, il existe dans tous vos films, en fait.
Bah oui, il y a un côté David contre Goliath, puis il y a aussi surtout un côté Don Quichotesque, quoi. C'est pas un hasard si à la fin de mon film, mon héros se met à foncer avec une espèce avec un bâton sur une éolienne. C'est pas parce que je suis contre les éoliennes, c'est parce que je voulais avoir une image Don Quichotesque dans le film. Je voulais que Don Quichotte soit là. En termes artistiques, c'est un événement extraordinaire. Lui, c'est le premier anti-héros. Tous nos héros sont Don Quichotesques. Et d'ailleurs, avec Gustave, là où on s'était rencontrés, c'était aussi sur une série dans Groland qui s'appelait Don Quichotte de la Révolution, où je jouais un Don Quichotte sur une vieille moto espagnole complètement hantée par les textes anarchistes. Et puis Gustave jouait un Sancho Panza, qui est un livreur de pizza, et on était tous les deux à l'assaut des multinationales. Donc ça n'a pas du tout bougé, on est restés. Ça fait du bien, des petites vengeances comme ça, on y a droit quand même. Là, je parle pas seulement de moi, mais je parle des spectateurs en général.
Comme fils d'agriculteur, et en étant attaché à tous ces paysages, il a jamais été question de reprendre la ferme ?
Alors non, parce que en fait, en gros, la ferme de mon père était trop petite, et puis nous, on était trois dessus, donc c'était même pas la peine, et il a vraiment tout fait pour qu'on quitte ce milieu, en fait, quelque part. Enfin, il était un peu trop pressuré par les crédits, etc. Il trouvait que c'était pas une vie. Chacun des trois, on est allé dans des directions différentes. Mon frère est médecin, ma sœur s'est occupée d'un club hippique, et moi, je suis un peu réalisateur. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est, par exemple, mon fils, lui, après avoir commencé vaguement dans le jeu vidéo, finalement, il a tout laissé tomber pour faire de la permaculture, et en lançant une pépinière d'arbres qui pourront tenir aux futures canicules, quoi, voilà.
Et ce qui est assez étonnant, quand même, dans votre parcours, c'est que vous arrivez quand même dans une prépa HEC, d'une école de commerce.
Moi, je voulais, par exemple, on avait même visité une école à Saint-Luc, en Belgique, pour faire de la bande dessinée. C'était vraiment mon souhait. Mais pour, justement, des parents petits agriculteurs comme ça, pour eux, c'est pas un vrai métier, quoi. Fais d'abord des études sérieuses, puis après, on verra. Puis ensuite, une fois que j'ai enfin terminé tout ça, j'ai pu enfin faire ce que je voulais, c'est-à-dire lancer mon premier journal de bande dessinée à Lille, qui s'appelait Fakoff, et puis ensuite me lancer dans une forme de journalisme avec un magazine qui s'appelait Création, et puis petit à petit d'arriver à ce que je voulais faire, mais malheureusement sans savoir dessiner, quoi. Puisque j'ai pas fait d'école, mais c'est grâce à la télé et au cinéma, finalement, c'est une façon de faire de la bande dessinée sans dessiner. Deuxième ironie du sort, ma fille fait des romans graphiques. Voilà. Au moins, par procuration, je la regarde travailler.
Boules de feu ou de cristal. UFO ou OVNI en français dans le texte. Objet non identifié. Titre de ce morceau qui réunit Forever Pavot et la chanteuse Lee Spector.
Une lumière insaisissable. C'est top, secret.
Oui, Benoît Delépine, comédien, co-auteur de l'émission Grosland sur Canal+, il fut aussi co-auteur des Guignols et il est aujourd'hui réalisateur de son premier long-métrage en solo, Animal Totem, dans Totémique sur France Inter.
Ce film, il est né avec quelle image, Animal Totem ?
Alors ça, c'est vraiment important pour moi, c'est que un film, pour moi, ne naît toujours que d'une image. Et là, c'était vraiment un personnage à la Monsieur Hulot, en costume, avec qui traîne une valise à roulettes. Graphiquement, je trouvais ça trop beau d'avoir un personnage un peu longiligne comme ça, et sa valise à roulettes qui traverse les champs, la campagne, etc. Et tout de suite après, Samir Ghesmi est venu tout de suite dans mon imaginaire. Il émane de lui à la fois une espèce de force, mais de douceur extraordinaire. Je me suis dit, je ne vois que lui pour incarner ce personnage, quoi. Et vraiment, je suis tellement heureux, même quand je revois le film, là, de... parce qu'il y a certains des dialogues, ils sont quasiment, enfin, sont très compliqués à dire, puisque c'est des dialogues un peu énigmatiques, un peu confucéens parfois. Donc, il faut quand même le faire, d'arriver à dire ça naturellement, sans prêter à rire, etc. Donc, je suis trop, trop content de notre aventure commune.
Voilà. T'as quoi là-dedans ?
Rien qui puisse vous intéresser.
Nouvel extrait d'Animal Totem de Benoît Delépine, ou les aventures de Darius, justicier dans le Far West de la Picardie contemporaine. Darius ne monte pas un fidèle destrier, mais tire une valise à roulettes. En chemin, il rencontre un policier débutant, un gosse qui attend le bus, des joueurs de billard, ou encore un chasseur prêt à le détrousser. Darius est interprété par Samir Ghesmi.
On va dire que je voyage avec mon karma et que j'y tiens.
Alors, à bout ton karma, sinon je te bute. Je compte jusqu'à 3.
L'homme honnête est lent à la parole et prompt à l'action.
D'ailleurs, ces dialogues, ils font penser à une série des années 70 qui s'appelle la série Kung Fu. Pourquoi ça vous fait marrer ?
Ça me fait rire parce que je ne m'en suis rendu compte qu'après coup, quoi.
On va écouter un extrait.
Ah oui ?
Ouais.
Ah bah ça, c'était vraiment dans les années 70, mais c'est ce personnage mystérieux, un peu asiate, qui traverse les États-Unis et qui a affaire à tous les cow-boys un peu redneck, quoi. Et effectivement, après coup, je me suis dit, mais attends, mais le film que je suis en train de faire, c'est kung-fu, quoi. C'est un personnage comme ça.
Donc un personnage qui apprend non seulement les arts martiaux, mais,
oui, voilà,
mais la sagesse.
La sagesse, voilà.
Et qui a un maître,
voilà,
maître Po.
Voilà, exactement.
Et donc on va écouter.
David Carradine.
Maintenant, y a-t-il plus ou moins de lumière dans cette chambre ?
Il y en a moins ?
N'est-il pas plus important de te trouver toi-même plutôt que de trouver un meurtrier ? Est-ce que tes parents n'auraient pas souhaité te voir avancer vers la vie et la lumière plutôt que de te voir reculer dans les ténèbres de la mort ?
Comment me trouver moi-même et trouver la lumière ?
En prenant le chemin qui conduit à la vérité.
M'aiderez-vous à marcher sur ce chemin ?
Je ne peux que te montrer le chemin, Scarabée. Les pas, tu dois les faire toi-même.
Magnifique, hein ? Magnifique. C'est ça, c'est le chemin est plus important, bien sûr. C'est une série qui m'avait effectivement marqué quand j'étais gamin à la campagne. On faisait partie des dernières familles à avoir une télé, alors noir et blanc, avec, je me rappellerai toute ma vie, avec une mouche. Il y avait une mouche à l'intérieur, donc on regardait le programme et il y avait toujours cette mouche qui était là. Donc j'ai vu
qu'il y avait une mouche dans la télé.
Elle était dans la télé, et puis c'était impossible de l'enlever de l'intérieur. Donc elle était là, elle était morte, hein, mais elle était au milieu de l'écran, quoi. Donc j'ai vu Kung Fu avec le héros avec une mouche sur le nez à longueur de temps.
On y va ?
On y va.
Après le petit écran, le grand. Pour Animal Totem, Benoît Delépine a tourné en cinémascope comme pour un western. Pour cet épisode de Totémique, il avait établi un itinéraire à pied dans le 18e arrondissement de Paris, entre le cimetière de Montmartre et le Studio 28, cinéma d'art et d'essai de la rue Tolosé.
Ce cinéma a projeté en 1930 mon film culte perso. C'est le film de Louise Buñuel, L'âge d'or, de Buñuel et Dali, d'ailleurs, ils étaient tous les deux.
Buñuel et Salvador Dali.
Et ce film-là, je le trouve inouï, extraordinaire, d'une modernité folle. L'âge d'or, c'est surtout tout à coup une scène d'amour complètement débridée dans un jardin entre un homme et une femme au milieu des aristocrates et des religieux. Et ça fait un scandale fou avec un héros qui balance par la fenêtre plein d'éléments divers, dont un prêtre. Non, mais c'est comme ça, c'est des images choc, quoi. C'est inouï, ce film.
Alors, ça avait fait un scandale.
Alors, justement,
énorme.
Ici, il a été projeté, donc ici, hein, ici même au Studio 28, c'est ici qu'il a été projeté. Il y a eu des bagarres pendant la projection. Il a été interdit, le film, et le cinéma a été interdit en 1930.
Mais ce serait un scandale aujourd'hui encore.
C'est... Oui.
Qu'il y ait un homme du clergé qui soit balancé par la fenêtre comme ça. Oui. Vous, ça vous fait marrer?
Bah, je sais pas. Peut-être que ça. Il y aurait encore des manifestations comme en 1930, je ne sais pas. Hein. De toute façon, par exemple, je suis sûr que dans mon film, il y a. Enfin, je ne veux pas spoiler le film, mais il y a une scène choquante, puisque. Une ou deux scènes choquantes, dans le sens où le CNC n'a pas voulu me donner l'avance sur recette à cause de cette scène, en le citant noir sur blanc. Donc, c'est qu'il y a encore des choses qui peuvent choquer.
Il y a évidemment le goût de la provocation, d'aller au-delà de l'interdit. Et ça, pardon, mais c'est votre génération.
Oui, oui, je sais. Je
beaucoup
sais.
Plus que oui, la génération
sûr.
Présente,
sûr,
qui, est, qui prône plus. Enfin, c'est une discussion que j'ai eue avec d'autres invités de votre génération
ouais.
sur le fait qu'il n'est pas question de blesser, il n'est pas question de heurter.
Oui, parce qu'ils sont beaucoup plus vite choqués. Ah, c'est ma fille, elle me dit ça, je suis mort de rien.
Elle vous le dit sérieusement ?
Oui, je suis choqué. Non, non, mais oui, c'est vrai. Mais nous, c'est parce que c'était une libération à cette époque-là de plein de tabous. Alors que bah, cette époque-là est certainement passée. Et aujourd'hui, il y a plus une volonté de se rassurer. Je le conçois en plus. Hein, je trouve que c'est la réalité qui nous rattrape. Par exemple, avec Groland, c'est marrant parce que notre émission était choquante. Et puis maintenant, elle est presque rassurante, c'est-à-dire que les gens continuent à regarder Groland comme un doudou, c'est-à-dire comme un souvenir d'une époque où on riait de ce type de choses, alors qu'aujourd'hui, eh ben, ça devient compliqué dans le sens où même c'est la réalité. Enfin, par exemple, hein, Donald Trump va beaucoup plus loin que toutes les caricatures politiques imaginables. Si on était aujourd'hui encore au guignol, qu'est-ce qu'on ferait sur Donald Trump si on écrit un truc le matin, il a déjà fait pire le soir. C'est impossible. Enfin, ça devient délirant de faire de la caricature politique ou sociétale. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus besoin de se rassurer, de se calmer, etc., plus que d'être dans la provoque, j'en suis conscient. Mais par exemple, je trouve que mon film, il est beaucoup plus dans la poésie que certains films précédents, et que le seul fait de montrer mon regard sur la nature et à quel point j'en suis amoureux. Le film, il a une forme de douceur qu'on me dit. En sortant, d'ailleurs, les spectateurs, ils restent là-dessus. Ils restent plus sur la poésie de l'ensemble du film que sur une ou deux scènes un peu plus choquantes. Mais...
Et tandis quand même que la philosophie et même tout ce qui a forgé votre génération, Pilote, Harakiri, Charlie Hebdo, tout ça pour, en cette fin d'année 2025... Écoutez la voix de Charles de Gaulle.
Ah oui.
C'est la voix que vous avez souhaité entendre. Ce qui quand même, pour votre génération à nouveau, fut le symbole de la société corsetée, de...
Alors moi j'étais petit à l'époque, de tout petit, je ne me rappelle pas vraiment de Charles de Gaulle.
Parce que vous êtes en 61 ou ça,
non ? Oui, oui, non, mais en 58. Mais j'étais en tout cas...
C'était en 58
ouais, ouais, ouais.
L'année de la création de la 5e
bah
République.
Oui, bah oui, c'est ça, c'est dingue, quoi. L'année de la création de la 5e République par le de Gaulle en question. Mais l'extrait que vous allez entendre, en le réécoutant aujourd'hui, ça m'a totalement sidéré.
On va l'écouter. C'est donc une interview de De Gaulle en juin 68, où De Gaulle reçoit le journaliste Michel Droit à l'Élysée. Mmh. Et voilà ce qu'il déclare.
Le capitalisme dit, grâce au profit qui suscite l'initiative, fabriquons de plus en plus de richesses qui, en se répartissant par le libre marché, élèvent, en somme, le niveau du corps social tout entier. Seulement, voilà, la propriété, la direction, le bénéfice des entreprises dans le système capitaliste n'appartient qu'au capital. Et alors ceux qui ne le possèdent pas se trouvent dans une sorte d'état d'aliénation à l'intérieur même de l'activité à laquelle il contribue. Non. Le capitalisme du point de vue de l'homme n'offre pas de solution satisfaisante.
C'est fou, quoi. C'est incroyable. Hein. C'est, moi, je trouve que c'est une très belle analyse, quand même, de cet homme, un général qui, effectivement, concentrait toutes les critiques des journaux dont on parle. Bah, il n'empêche que quand on écoute ce discours, on est scié, parce qu'on a l'impression que c'est une vraie critique du capitalisme, mais très bien vue, dans le sens où on dira ce qu'on veut, mais le capitalisme a élevé quand même le niveau de vie de l'ensemble de la population, je veux dire même mondiale. Sauf que quand c'est trop concentré dans le capital, certains oublient de le faire ruisseler, cet argent. Enfin, c'est tout à coup, et c'est une problématique qui va devenir encore plus importante dans les prochaines années, puisque l'intelligence artificielle qui va arriver, qui va aussi enlever plein de professions. Pourquoi pas? Ça, c'est très bien. Si l'argent généré par ce nouveau capitalisme ruisselle pour l'ensemble de la population, c'est parfait. Mais si c'est des GAFA qui, tout d'un coup, se mettent à concentrer l'ensemble de la richesse produite, ça va plus du tout, quoi. On va très vite se retrouver comme des animaux d'élevage qu'il faut nourrir, malgré tout. Mais très vite, l'intelligence artificielle va se demander pourquoi. À quoi on sert réellement? Si on oublie de partager, ben ça ne peut pas bien finir. Je suis tout à fait d'accord avec Charles de Gaulle. Voilà.
Quand on a signé, on a signé. Comme pour un tracteur ou autre chose, eh ben, quand t'as tapé dans la main, t'as tapé dans la main.
La voix de Yolande Moreau dans Louise Michel, film co-réalisé par Benoît Delépine et Gustave Kervern. Si Louise Michel est le nom d'une révolutionnaire de la commune féministe, dans le long métrage de Kervern et Delépine, Yolande Moreau est Louise et Bouly la nurse est Michel. Louise est une ouvrière qui découvre que les machines de l'usine où elle travaillait ont été déménagées dans la nuit. Avec ses camarades, elle décide de faire appel à Michel, qui est agent de sécurité, pour buter le patron voyou. Mais Michel n'a pas vraiment les compétences et songe à renoncer. Louise lui tient alors précisément ce langage. Louise Michel, de Kervern et de Lépine, est sortie en 2008.
Et nous, les pauvres gens qui crèvent la faim à cause de ces pourritures, on est en vie, tu parles d'une vie. T'as vu cette vie? Hein? Se mettre en robe pour aller au boulot? Manger des limaces, marcher à pied pour économiser ton quart? Boire des fonds de café, fumer des mégots, chasser le rat, ou mouiller ton doigt pour aller au fin fond du placard pour avoir quelques miettes? T'appelles ça vivre, toi? Mais bon Dieu, Michel, sois un homme au moins une fois dans ta vie! Connard!
Longtemps, ce God Save the Queen des Sex Pistols fut l'inspiration du générique de Groland, émission satirique de Canal+, avec Benoît Delépine, Gustave Kervern ou encore Moustique.
Yeah.
Allez, au boulot, mon totem.
Totem ?
Totemique. Rebecca Manzoni.
Dans Animal Totem, de Benoît Delépine, le ciel peut occuper les deux tiers de l'écran. Et sur la ligne d'horizon, aussi petit qu'une fourmi, un gars traverse un champ à pied en tirant une balise à roulette. Traverser un champ à pied, c'est du temps. Et le film le prend. Jusqu'ici, Benoît Delépine a co-réalisé 10 longs métrages avec Gustave Kervern, Animal Totem et son premier film en solo.
Il y a quelque chose qui, malheureusement, peut-être tue un peu le cinéma français en général. Je peux peut-être en parler, mais c'est que les producteurs ou les chaînes de télé n'acceptent des scénarios que s'ils ont l'air d'un scénario de long métrage. Et pour avoir l'air d'un scénario de long métrage, il faut faire 120 pages, puisque une page égale une minute, enfin, c'est inscrit, c'est comme ça. Et par exemple, notre deuxième film s'appelait Avida, enfin qui s'appelle Avida, comme le personnage principal joué par Gustave était un sourd-muet, il n'y avait aucun dialogue. En soi, le scénario faisait 40 pages, donc on se les fait refuser de partout, parce que ce n'était pas pour eux un scénario de long métrage. Or, toutes les scènes étaient là, et on les a tournées, et à la fin, le film faisait quand même une heure et demie. Et moi, j'avais vraiment envie de revenir à cette époque dorée, quand on avait l'audace de faire ça, parce que c'est trop beau. Dans le cinéma, il y a cinématographique, il y a quelque chose de graphique, il y a quelque chose de... pour moi, c'est le grand écran, c'est le temps de le regarder, c'est le temps de décider de regarder à droite ou à gauche, en haut ou en bas, c'est le temps du silence, c'est le temps de la musique, etc. Pour moi, c'est vraiment très important. Un bon film, pour moi, se doit d'exprimer tout ça, parce que le spectateur, il doit faire lui-même son petit film, il doit lui-même faire le point sur tel ou tel détail, et puis tout à coup écouter, puis tout d'un coup se reposer, puis tout d'un coup, c'est grâce à mes producteurs Toufi Kayadi et Christophe Barral qui ont accepté ça, que je fasse un scénario de 60 pages, parce que je voulais laisser du temps au temps, quoi.
Dans les pérégrinations du personnage principal d'Animal Totem, il y a un moment où il tire à l'arc.
Ah oui.
Je peux regarder ?
Oui, oui, je vous en prie.
J'aime beaucoup le tir à l'arc.
Et vous pratiquez ?
Enfin, oui, il y a longtemps.
Enfin, moi, je suis archer. Enfin, je tire à l'arc depuis que je suis à la campagne. Je fais partie d'un petit club local et je tire à l'arc depuis maintenant une vingtaine d'années. Je trouve ça extraordinaire, quoi. C'est un sport de concentration et puis qui m'empêche de gamberger, de mouliner. Enfin, la moindre petite pensée qui vient s'inscrire dans le cerveau pendant le tir, ça fait forcément dévier la flèche. C'est trop beau. Donc il faut être seulement dans l'instant, dans la réalité, être en phase totale avec soi-même, de le corps entièrement, entièrement concentré sur cet objectif. Et c'est trop beau, quoi. Parce que effectivement, mon métier fait que j'ai quand même passé toute ma vie professionnelle à essayer de trouver des idées pour une émission, pour un film, pour autre chose. Donc on est forcément le cerveau qui mouline tout le temps d'une façon ou d'une autre. Et ça, quand j'arrive à m'en échapper, je suis très content, quoi. Quand j'arrive à tout à coup calmer vraiment le jeu et me laisser aller à une forme de méditation, on va dire.
Vous vous êtes rêvé cinéaste, vous, ou pas ?
Mais non, mais vraiment pas du tout. C'était même aberrant pour moi. Même quand j'étais scénariste, parce que ça, par contre, scénariste, c'est toujours... eu l'ambition de le faire, un scénario de sketch ou de scénario en général, même d'histoire longue ou courte. Mais la réalisation, je m'imaginais même pas une seconde que j'aurais pu le faire. Et finalement, Gustave et moi, ce qui nous a donné envie de le faire, c'est en rencontrant tous nos amis belges, dont Benoît Poulvorde et toute la bande de C'est arrivé près de chez vous, qu'on s'est rendu compte quand même qu'avec une petite équipe bien soudée, on s'est dit pourquoi pas nous, quoi. Et après avoir discuté aussi avec des gens comme Maurice Pialat, comme Claude Chabrol, etc., qu'on a été amené à rencontrer lors de nos diverses aventures, c'est eux qui nous ont dit « Allez-y, foncez, qu'est-ce que vous attendez ?» Et donc, on s'est lancé un peu à l'aventure. Même si on a... on ne sait pas exactement ce qu'on veut, mais on se dit si on n'y arrive pas, l'autre va trouver. Enfin, donc, on s'épaule. Et du coup, les autres le ressentent. Ils se disent « Tiens, ils ont l'air de savoir ce qu'ils veulent, même si ce n'est pas le cas. » Mais en tout cas, ça fait un tournage détendu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stress. Et du coup, après, le fait de diriger, c'est surtout de pouvoir juger, souvent à l'oreille d'ailleurs, avec le casque, quand c'est le ton, quand c'est juste ou pas juste, en fait. C'est ça.
Vous dites quand c'est bien ?
Oui, alors on le dit, mais ça, c'est Bouly qui nous avait dit qu'on était un peu salaud parce que
Bouly Lanners,
en fait, sur Louise Michel, par exemple, on n'arrêtait pas de féliciter les gens qui avaient des rôles secondaires, quoi. Mais en leur disant, mais t'as été génial, etc. Mais on oubliait de dire à Bouly qu'il était génial, quoi. Et à Yolande, on oubliait de leur dire, on ne parlait qu'aux gens qu'on faisait venir sur le tournage, mais qui étaient des non-professionnels. Et donc là, on était tellement contents qu'ils y arrivent, parce qu'à chaque fois, c'était, on peut courir à la catastrophe si tout d'un coup, quelqu'un est vraiment trop faux, quoi. Et donc, effectivement, on oubliait de féliciter les meilleurs. Ils étaient géniaux en soi, tout le temps. Donc, pour nous, il n'y avait pas de souci, quoi. Alors, du coup, bien sûr, nous, quand on est des salauds, à chaque fois qu'ils finissaient une scène qu'on aimait bien, on l'applaudissait à tout rompre, en en faisant beaucoup trop. Mais il est trop génial, Bouly. Hein. Enfin, franchement, non seulement il est génial en tant qu'acteur, mais il est adorable dans la vie. Quoi.
J'aimerais qu'on écoute le tube que vous avez choisi.
Voilà. Non, mais c'est trop beau, cette chanson. Ça me donne une énergie.
Le capitalisme...
Ah, bah, dis-le.
Attends.
C'était le général de Gaulle, donc. Ce matin, pour Totemic, Benoît Delépine a choisi
comme un battement d'aile.
À que la vie est belle de Brigitte Fontaine.
D'oiseaux de paradis. À que la vie est belle. Quelquefois pour un rien. La divine immortelle.
Brigitte Fontaine, magnifique. Tout à coup, la poésie mêlée à la musique, c'est l'art suprême. D'arriver à ce qu'elle fait là dans ce morceau, avec Areski d'ailleurs. Mais c'est... Enfin, je trouve ça dépasse tout, quoi. D'ailleurs, avec elle, on a fait un film poème ensemble, avec Gustave et elle, qui s'appelle Morlaix. C'est vraiment une personnalité qu'on adore, quoi. Brigitte, par exemple, une fois, quand elle passe la Loire, elle met un casque. On avait tourné la majeure partie du film en Bretagne, mais il y a eu toute une partie qu'on a dû tourner chez moi parce que j'ai fait une fausse fusée chez moi avec un silo à grains. Et Brigitte, qui avait mis son casque en cuir, hein, le casque sub-Loire, bon, mais elle monte l'escalier, puis elle n'avait pas vu la porte. Il y avait la porte de ma fusée découpée dans la ferraille, hein, à vif, quoi. Elle dit sa phrase, puis elle rentre dans la fusée, et blam ! Elle tombe par terre comme ça. Et puis elle se relève. Mais heureusement, elle avait ce casque. C'est fou, quoi. Ça fait des années qu'on se disait, mais à quoi il peut servir ce casque ? Eh bien, il a servi, c'est-à-dire qu'elle n'est pas morte chez moi.
Vous connaissiez ses chansons avant de la faire jouer, parce que elle est aussi, c'est la mère de Benoît Poulvorde et Albert Dupontel dans Le Grand Soir.
Quel souvenir de fou, c'est délirant. Parce qu'elle a un sacré caractère, hein, Brigitte. Attention, hein, c'est quelqu'un. Donc elle était dans un petit hôtel à Angoulême, et puis au déjeuner, enfin, on en profite pour présenter Benoît Poulvorde et Albert Dupontel à Brigitte, quoi. Et elle connaissait Benoît de vue, donc très gentille avec lui. Et tout d'un coup arrive Albert, dit bonjour. Elle lui dit bonjour, mais avec l'œil un peu fuyant. Et puis, je sais pas, Albert, pour amener une forme de conversation, puis montrer qu'il adorait ce qu'elle fait, il se met à chantonner « Ah, que la vie est belle !» Enfin, tu vois, comme ça. Puis elle le regarde, elle fait « Ta gueule !» Et là, silence de mort. Et lui, il sait plus quoi faire et il s'en va, quoi. Puis elle détourne le regard, etc. Et pendant tout le tournage, elle pouvait pas le blairer, quoi. Enfin, elle lui fait la gueule tout le temps. Il y a rien à faire, c'est un côté animal, quoi. Ensuite, je vais chez elle, à Reski, pour lui montrer le film. Et puis, en gros, elle dit « Le film est très bien. Moi, je ne suis pas bien, mais le film est très bien. » Puis tout d'un coup, elle me regarde avec un regard enamouré, me dit « Mais qui est cet acteur brun, magnifique, pendant tout le film ?» Ben, je dis « C'est Albert. Albert Dupontel. Mais il est extraordinaire, cet acteur. Quel homme extraordinaire. » Je dis « Mais tu rigoles. Tu lui as fait la gueule pendant tout le tournage. » Je dis « Ah bon ?» Et du coup, je lui ai donné le numéro d'Albert et elle a appelé Albert là, le soir en question pour le féliciter de sa présence dans le film, etc. C'est incroyable, quoi. Incroyable. C'est Brigitte, en fait. Elle est totalement imprévisible. Mais c'est ça que j'adore chez elle, quoi.
Moi, il faut que tu me rendes un service.
Albert Dupontel et Brigitte Fontaine dans Le Grand Soir de Carverne et de l'Épine.
Excuse-moi, je suis vraiment dans la merde. J'ai la petite sur les bras. Je peux pas la mettre au magasin.
Laissez-moi, bon. Vrai.
Si c'est vrai, maman.
Ah, c'était vraiment sans moi.
Maman, je t'en supplie, faut que
c'était
tu me
fasses. C'était vraiment
sans moi. Maman, regarde-moi, regarde-moi.
Mais c'est dégueulasse.
Maman, regarde-moi.
Dégueulasse.
Maman, faut que tu me rendes un service. Je suis vraiment dans la merde, faut que tu t'occupes de la petite. Je peux pas l'amener au magasin, c'est pas le moment. Tu comprends?
Mais nous aussi, c'est notre jour de repos.
Oui, allez.
Je suis pas vert, moi.
Mais si, tu l'as bien fait pour nous. Bon, mère, merci, je te laisse, je te rappelle. Attention à la petite, attention.
Jean-Pierre, je suis pas ta mère.
Hey, I thought it was all over.
What's up, Dolce?
Hey, girl.
You know, it's been a little minute since you and I have had a chat.
Has it really?
Probably since, like, your last EP, All the Places You'll Go.
Oh, wow. It's been a minute, yeah.
I've been getting some calls.
Oh.
People are a little bit worried about you.
Not worried.
And I know that I was kind of that outlet for you, so...
You were.
Why don't you just... Tell me what's been going on.
Je suis pas ta mère!
Okay. Remember old dude from 2019? Nice clean nigga did me dirtier than laundry. Took a scroll through his IG just to get a DM from his wife. I was so confused, what should Dolce do? She didn't know about me and I didn't know about Sue. I opened up the messages and had to hit the Zoom. Turns out the girl was really a dude. Nigga think he slick back till I slip back. Got my lick back, turn a nigga to a knick-knack. I moved on, dropped a couple of songs, and then I went and got signed. Now it's 2021.
Okay, I just feel like this is the perfect opportunity for us to just take a second and kind of unpack what's happened to you. You know, this guy cheated on you and...
Nah, fuck it. Platinum record this, Bible record that. I'm making so much money, I'm all over the net. I'm moving so fast, no time to process. And no, I'm not in a gang, but I'm always on set. Wristwatch, drip drop, label want the TikToks. Now I'm making TikTok music, what the fuck? I need a cleanse, need a detox, but we ain't got time to stop. The charts need us. Fast forward me, 2023. I'm stacking lots of cheese and making money. My grass is really green and honestly, I can't even fucking cap no more. This is a really dark time for me. I'm going through a lot.
By a lot, you mean drugs?
I wouldn't.
Drugs?
No, it's a...
No?
It's a natural plan.
No, I'm not judging.
I'm not an addict.
I'm just saying.
I don't think...
You wanna talk about it?
I like pills, I like drugs, I like getting money, I like strippers, I like to fuck, I like day drinking and day parties in Hollywood, I like doing Hollywood shit, snorted Bollywood. What can I say, the shit works, it feels good, and my self-worth's at an all-time low. And just when it couldn't get worse, my ex crashed my place and destroyed all I owned. Whoopsie, made a oopsie, $100,000 oops made me loopy. I ain't a killer, but don't push me. Don't wanna have to turn a nigga guts into soup bean.
Whoa. Okay, Dolce. We don't wanna revert back into our old ways. So we're gonna try a breathing exercise, okay?
All right,
when I breathe, you breathe, all right? Let's go.
C'était Dolce, Denial is a River. Benoît Delépine, scénariste, réalisateur, et dans Totémique jusqu'à 10h. J'ai une dernière question qui concerne le bluff.
Oui.
Comme finalement vous avez une activité qui, à laquelle vous n'étiez pas spécialement destiné, où vous avez été complètement autodidacte, pour démarrer, est-ce que vous avez bluffé?
Grave bluffé, parce que J'ai fait mon premier journal s'appelait Fac Off, on était à plusieurs dessus, et on avait fait faillite, donc on s'est retrouvé à la banque avec des dettes, quoi. Avec chacun à l'époque, c'était à 23 ans, se retrouver déjà avec plusieurs dizaines de milliers de francs de dettes, c'était pas terrible. Et puis, juste au moment où ma femme est tombée enceinte de ma première fille, et donc il y a un moment, t'as plus d'argent, t'as des dettes, il y a un enfant qui va arriver, donc il faut bluffer, il faut absolument trouver un boulot, il faut, je sais pas, et donc à l'époque, le seul endroit où il y avait de l'argent, c'était la publicité, donc j'ai appelé un patron d'agence de pub à Paris, en me faisant passer pour un journaliste d'actuel, enfin à l'époque c'était un journal qui avait du succès, et j'ai rencontré Jean Feldman, un grand patron de la pub, donc j'arrive à Paris en stop en plus, hein, faut le faire. J'ai rendez-vous dans son grand bureau de la rue du Louvre qui dominait tout Paris, une espèce de truc vitré comme ça, à 360 degrés. Et je m'assois devant lui, puis il me dit « Alors, où il en est Jean-François ?» En parlant de Jean-François Bizot, le patron d'actuel.
Que vous connaissiez pas?
Non. Pas de nom. Hein, mais... Je dis « Écoutez, monsieur Feldman, j'ai deux mauvaises nouvelles à vous annoncer. » Il me dit « Ah bon, quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit, premièrement, je ne suis pas du tout journaliste actuel. Et deuxièmement, tout ce que vous faites, c'est de la merde. Et là, je regarde les affiches qu'il y avait dans son bureau. Je dis, ça, c'est nul. J'aurais pas fait ça, j'aurais fait ça. Ça, j'aurais pas fait ça, j'aurais fait ça. Ça, j'aurais pas fait ça, j'aurais fait ça. Ça, j'aurais pas fait ça, j'aurais fait ça. Et il me regarde halluciné.
Bah, il me dit,
écoutez. Soit vous êtes fou, soit vous êtes génial, je vous prends en stage pendant un mois. Donc voilà, il m'a pris en stage pendant un mois. Il s'est très vite rendu compte que j'étais que fou. Bon, je me suis fait dégager au bout d'un mois, mais ça m'a donné le pied à l'étrier pour rentrer dans un journal qui s'appelait Création. Et c'est comme ça que j'ai gagné ma vie à Paris, et que j'ai pu nourrir ma petite famille. Voilà.
Allez, on termine avec la photo.
Oh là là, waouh, attends, c'est un sacré Polaroid, ça.
Vous gardez les lunettes?
Comme tu veux, mais j'ai les yeux rouges d'un peu hier, mais bon, écoute, c'est comme tu veux. Oh, ah ouais, c'est pas du petit format, hein. C'est pas mal, c'est un vrai format Polar.
Allez-y, prenez-la.
Hop. Photo va apparaître, terrible. Mais tu vois, par exemple, l'histoire de Feldman, ça pourrait plus arriver. Parce qu'aujourd'hui, il irait voir tout de suite sur Internet mon nom, et bon, il verrait qu'il n'y a personne qui s'appelle de Lépine actuelle, ou dans le journal en question. Et puis après, si je sortais ça à un publicitaire aujourd'hui, mais il appellerait la sécurité directe, enfin, tu vois.
La photo est développée?
Ah ben voilà, c'est bien moi, en train de rigoler.
On passe à votre carte blanche?
Mais alors, si je la chante, il n'y a pas la musique derrière, c'est un peu embêtant quand même. Enfin, j'adore cette chanson.
Et, qui s'intitule comment?
Sur ma mob, de Lily Drop. Alors,
1980, je crois.
Ouais, 1980, ouais. C'est tellement bien, j'essaie de la chanter, mais... Ah, voilà.
Sur ma mob, je suis bien. Je suis bien et je chante. Sur ma mob, je suis bien. Et ces connes de bagnole sont folles de rage.
Allez, dis donc.
Tibidoubi papa. Tibidoubi papa. Et ces connes de bagnole.
À chaque fois, c'était des petites nouvelles, en fait. C'était des petits films, ces chansons-là. Mais là, c'est un gars qui est sur sa mobylette, et puis il est heureux comme tout, parce qu'il domine un peu la circulation, puis il regarde les gens. Là, il parle d'un automobiliste, il dit « Le feu rouge, alors c'est le feu rouge, on se regarde avec des yeux tout ronds, embaumé seul dans ta caisse. » J'ai envie de te mordre la cuisse épaisse, ton regard de vache à ta chambre, j'ai envie de planter mes dents. Champs-Élysées, pa, 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 Champs-Élysées.
Non mais
c'est génial, quoi. En fait, pour moi, la vraie écologie, c'est pas de rouler électrique ou quoi, c'est de rouler peu. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir une mobylette et rouler peu, mais avec des moustiques dans les dents, comme on dit. Puis de regarder le paysage en n'allant pas vite, en faisant un peu de fumée, mais c'est sur tellement peu de kilomètres que ça vaut tout.
Merci beaucoup, Benoît Delépine.
Merci à vous. Ça va, tu penses que t'as de quoi faire ?
Animal Totem de Benoît Delépine est en salle depuis mercredi. Stéphane Le Guenec, réaliste totémique, et c'était avec Arnaud Caillet ce matin. Perrine Malinche programme nos invités, Ilinka Negulesco trouve tous les sons et la documentation, et JB Audibert prend soin de nos disques. La semaine prochaine, je vous emmène dans le bureau de Jonathan Cohen.